Cet après-midi, on va éclairer l'arrière des scènes, ce qui fait vivre la scène au quotidien, en dehors des concerts. On parlera photographie tout à l'heure, mais on va commencer en parlant des fanzines. Vous avez une très belle réalisation derrière vous, de Samuel Etienne, qui est à côté de moi, qui l'a préparée avec Marie Bourgoin et qui va vous présenter son travail. Je voulais juste dire un merci au type désagréable qui est à l'angle du bar là-bas. C'est lui qui s'est charrié tout le bois pour qu'on arrive à faire ça. Donc merci beaucoup Noël.
Merci Elvire. Donc oui, moi je vais vous faire une présentation sur les fanzines punk à Nantes depuis le début des années 80. Alors assez rapide. Je suis pas entré dans le détail sur le contenu, même si je vous en montre un petit peu. L'idée c'est vraiment de démarrer avec un inventaire. Donc sur les fanzines punk. Alors ça veut dire qu'il y en a beaucoup que j'ai mis de côté puisque mon critère finalement de sélection, ça a été ceux qui parlaient que de punk ou ceux qui parlaient un petit peu de punk ou qui le revendiquaient d'une manière ou d'une autre. Donc de manière musicale, bon assez classique hein, parmi les premiers fanzines, et aussi un peu plus tard aussi ceux qui a priori n'étaient pas punk, faisaient de la BD par exemple, mais dans lesquels quand on regardait, on fouillait, ben on avait des dessins qui évoquaient plus ou moins la scène punk ou l'individu punk, le corps punk dont on a pu se parler ce matin. J'ai fait quelques photocopies, mais je pense que j'en aurai pas pour tout le monde. Si vous voulez le zine wall, le mur de fanzine qui est derrière, je le distribue. Alors je précise juste très rapidement, je fais ça sur les fanzines, puisque moi j'ai vécu 25 ans à Nantes et j'ai fait des fanzines à partir de 85 et surtout à partir de 88, entre 88 et 96, où j'ai fait à peu près une dizaine de fanzines sur Nantes, et j'ai été aussi dans Trampomag, pas un fanzine mais un média on va dire institutionnel édité par Trampolino à ses débuts. Alors parmi, je précise aussi que cet inventaire, il est forcément incomplet, parce que ce qui fait l'originalité des fanzines, c'est parfois ils sont édités à 10 exemplaires, hein, 5 exemplaires, ils circulent très peu, et puis ils disparaissent, le fanzine étant éphémère par sa nature. Donc ce que j'attends aussi, je sais qu'il y a des fanzineurs dans la salle, hein, c'est aussi si vous en connaissez d'autres, et puis si on peut échanger à la fin pour compléter la liste. Alors l'un des premiers fanzine qui va parler de punk à Nantes. C'est un fanzine qui s'appelle Le Temps Sauvage, qui est donc édité par Jean-Marc Gros, et donc qui va nous parler dès juin 83. Vous voyez, on voit Suxy en couve, et puis on a un article sur les Sex Pistols. Alors Le Temps Sauvage est édité par Jean-Marc Gros, Dosagène Records, ça aussi on n'en a pas parlé jusqu'à présent, qui avait édité la première compilation rock, hein, Fireball, sur Nantes. Et puis quand on regarde au revers hein, de cette compilation, on voit dans les remerciements Marc Zermati, Patrick Oedlin. Voilà, il y a des acteurs, hein, des scènes punk, on va dire nationales. C'est aussi le label des premiers 45 tours de EV, hein, et puis d'autres compilations. On va retrouver les Stunners avec un futur membre des Stepping Stones, harmoniciste avec la souris déglinguée, Daniel Dark, Little Bob. Et Osagen va évoluer. Le Temps Sauvage également va devenir un magazine nantais de rock et BD, High School Romance en 84. Donc là, avec une impression offset, même si c'est du petit tirage, c'est 300 exemplaires, donc vous voyez le contenu, Bellum, Zoopsy, etc. Mais quand on va quand même à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Bah déjà, ça parle des fanzines, ça parle de la scène, hein, ça parle de gratte-toi le cul, ça parle du carré, donc je vais y revenir. Et puis, vous avez Kronstadt Disorder avec une interview. Vous avez là une interview de Vincent Prioux, un dessin punk. Alors, je pense pas que ça soit Vincent Prioux à l'époque, mais en tout cas, vous voyez la représentation du punk à travers la bande dessinée. Enfin le dessin en l'occurrence. Toujours c'est la même période, la première moitié des années 80, on a Le Carré, alors là qui est un fanzine quand même assez luxueux, avec du rhodoïde, une impression rouge en transparence, et dans lequel on va retrouver plutôt des graphistes, Matt Couture, on va avoir Nicolas de la Casinière, Eric Sago, hein, on est au milieu des années 80, donc des gens qui vont être aussi importants après dans le fanzine à Nantais. Et puis le ce qu'on va appeler le premier fanzine punk, et il porte bien son nom, il dit, il s'adresse à l'essentiel, hein, c'est « Gratte-toi le cul, t'auras des verrues », donc rien que par son titre, déjà, plante le décor, et puis par toutes les couvertures qu'il va produire, hein, déjà avec des caractères découpés, etc. Et ça va être un fanzine qui aujourd'hui, je dirais à une époque où on refait un petit peu l'histoire, on essaie de réécrire l'histoire du punk, bah, est une source historique importante pour savoir ce qui s'est passé dans les scènes, comment se sont déroulés, bah notamment le premier festival hein, de punk à Nantes, 18 août 84. Et là, on va avoir 4 pages où vous avez, bah, évidemment, les photocopies sont de très mauvaise qualité, mais vous avez quand même du témoignage iconographique sur ces différents concerts hein, où il y avait les collabos comme Intern Sex, Camera Silence, des groupes anglais, Intensive Care, etc. On va avoir la même manière, eh bien des articles sur les Bérus et puis un historique déjà sur les groupes nantais qui font du punk hein, depuis les Atlantes, Crash C13, Kronstadt, etc. Donc c'est là qu'on va pouvoir trouver finalement des sources un petit peu historiques, parce que c'est ni dans Ouest France ni dans Presse Océan hein, qu'on va avoir des comptes rendus très rarement, en tout cas pas à cette époque là de ces festivals. Alors c'est toujours aussi, il faut porter un regard quand même critique sur le contenu des fanzines, parce que un fanzineur, ça ne le dérange pas d'inventer quelque chose, donc de faire un compte rendu d'un concert auquel il n'a pas assisté, donc il faut se méfier malgré tout hein, de cette source que peuvent être les fanzines. Bordel 666, qui aura fait juste un numéro zéro, c'est Gilda Le Poles. Vous voyez le contenu, directement inspiré par Gratte-toi le cul. J'avais interviewé Gilda il y a quelques années. Il m'avait dit, bah, moi j'ai tombé sur Gratte-toi le cul, j'avais commencé, j'en ai fait un, puis j'ai trouvé que c'était tellement nul par rapport à Gratte-toi le cul que j'ai arrêté, j'en ai pas fait deux. Donc voilà, donc, vous voyez, là, donc on est dans ce délire-là, hein, dans, vous voyez le type de contenu. Alors, parmi les membres de Gratte-toi le cul, il y en a certains qui vont arrêter de faire du fanzine, et puis d'autres qui vont continuer. Hein, ça a été mon cas aussi plus tard, quand le principal fanzine, j'en parlais tout à l'heure, de Gossip, s'est arrêté. Moi, c'était une grosse frustration, donc j'ai fait d'autres fanzines et j'ai quasiment pas arrêté. Donc on va avoir Fred Dornier qui va faire le Nabo, avec un contenu assez hétéroclite, puisque ça va, vous voyez, les Shérifs, les Thugs, les Wampas, Brutal Combat. Alors là, on se demande ce que Brutal Combat fait là. Donc c'est quand même, voilà, c'est vraiment l'auberge espagnole, mais néanmoins ça reste toujours, vous voyez, les Thugs, voilà, compte rendu Thugs au FJT Beaulieu, le 1er février 86, là encore, hein, on a quelques photographies, on a quelques comptes rendus hein, de ces concerts. Un des fanzines importants qui va prendre le relais, hein, ça se succède souvent de cette scène sur cette scène punk nantaise, c'est PQ hein, qui va sortir une trentaine de numéros entre 85 et 89 avec notamment des gens comme James Fortune hein, plus connu sous son vrai nom aujourd'hui, et puis PQ, on peut faire le lien déjà avec Gratte-toi le cul, PQ, hein, vous voyez, toujours à peu près au même niveau, et puis bah, qui était livré certains numéros avec une feuille de PQ, hein, donc voilà, et dans lequel on allait avoir des interviews qui pour moi finalement rappellent, même si c'était improvisé, bah, l'événement Bill Grundy et les Sex Pistols, hein, puisque vous voyez l'interview là de GPS... et puis vous avez une question, alors voilà, est-ce que je peux dire des gros mots, ok, alors zop, bit, clitoris, enculé, trou du cul, ça va pas chercher plus loin, c'est très potache, on en parlait tout à l'heure, voilà, c'est assez rigolo, on est dans cet esprit un petit peu de subversif, hein, d'une presse très très différente. Certains, bah, voilà, comme James Fortune de PQ, vont aussi faire d'autres fanzines un petit peu différents. Donc là, Survivre à Nantes, hein, sous l'époque Chotti. Voilà, des quelques numéros. Hein, on trouve les Spewmen, les maquettes. Là, c'est donc la personne de James Fortune qui les a postées il y a pas très longtemps sur sa page Facebook. Après, on va tomber sur Sam Is That, hein, deuxième moitié des années 80. Donc de type, vous voyez en bas, une page de pute. Voilà, on est toujours hein, sur un vocabulaire qui fait que voilà, on pourra ramener ça à la scène punk sans problème. On est dans la provocation, dans l'expression totalement libre. et sans retenue. Alors j'inclus Tendance P4, qui est Saint-Malo de Garsac, hein, puisqu'on va avoir Verdun, El Cadet, The Brigades, avec toujours des lettres découpées, c'est écrit à la main, c'est photocopié, donc finalement une esthétique très très rudimentaire qui est celle des premiers fanzines punk anglais de type Sniffin' Glue. Ensuite, toujours, on retrouve hein, certains fanzineurs hérités du gratte-toile-cul, le Nabo, et qui arrive et qui crée Scène Plongeon avec Cloporte, futur chanteur de Bloody Muesli, et qui est dans la salle. Alors, peut-être qu'il voudra en parler à la fin sur comment finalement ça s'est créé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a toujours deux, trois fanzines en même temps, et quand il y en a un qui s'arrête, il y en a un autre qui prend le relais. Donc il y a toujours un support médiatique papier hein, sur cette scène. Il y a quelques couvertures, et puis aussi une recension des autres fanzines. Donc il y a vraiment cette solidarité hein, de la scène. Finalement, on sait qu'il y a un autre fanzine qui existe. Même si on le côtoie pas en direct, on en parle, on indique où le trouver. On a une rubrique qui s'appelle Scactualité dans Scène Plongeon, qui ensuite va devenir un fanzine à part entière. Alors, je l'ai pas retrouvé, mais malheureusement, mes fanzines sont pas du tout classées. J'en ai tellement beaucoup que j'ai pas réussi à retrouver le numéro de Scactualité, mais j'ai le souvenir d'avoir acheté chez soit First Disc ou Blue Records, dont on parlait tout à l'heure, un numéro de Scactualité. Et puis, cette héritage du fanzine, finalement, on va le retrouver un peu plus tard. Hein, j'en parlais tout à l'heure avec Joël, avec le pressbook hein, de Bloody Muesli, qui est fait un petit peu comme un fanzine. D'ailleurs, on se dit, on a l'impression, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est quand même assez incroyable comme pressbook, hein, comment le groupe se raconte à travers un fanzine, on dirait un fanzine de BD. Donc ça, je pense, c'est aussi l'héritage hein, de la pratique du fanzine. Fin des années 80, toujours les faux frères du Cabanon, là c'est de Saint-Nazaire, dans lequel hein, on va retrouver des choses sur les Tugs, par exemple, au TH. Et vous voyez l'intérieur, on est toujours sur du fanzine, écrit à la main, vraiment quelque chose qui demande très très peu de moyens, et toujours là cette même esthétique. PQ s'arrête, je le disais tout à l'heure, PQ s'arrête, et puis moi avec des copains de lycée, on commence The Gossip, qui sera donc, on commence fin 88, le premier numéro va sortir en février 89, vous voyez le sous-titre, Ska, Punk, Oi, Alternatif, Hard Rock, il y a vraiment de tout, parce qu'il y a un noyau dur de 4-5 personnes, et puis on écoute chacun des choses très différentes, et chacun amène finalement sa pierre à l'édifice, il a envie de parler d'un groupe, d'un disque. Alors voilà, moi dans le premier numéro, j'avais parlé d'un album de The Addicts, parce que c'est ce que j'écoutais, c'est ce que j'avais envie de défendre. Le premier numéro, il va être tiré à 50 exemplaires. Un an plus tard, on est au quatrième numéro qui est en offset à 1000 exemplaires, puis ça va monter jusqu'à 5000. Alors il y a ça aussi, il y a ce côté finalement, le fanzina c'est totalement improvisé, c'est totalement DIY, on n'a aucune expérience, mais très vite ça peut prendre de l'ampleur, hein, et puis ça vous donne cette impression finalement que c'est une voie de réussite professionnelle assez aisée qui vient un petit peu en concurrence avec parfois la scolarité. Alors vous voyez le contenu aussi hein, dans le numéro 2 avril 89, Al Capote, Banana Trash, Sisters of Mercy font 2K2, vous voyez, c'est vraiment l'auberge espagnole. Banana Trash, c'est rigolo parce qu'on en parlait tout à l'heure hein, sur le côté c'était des punks etc, mais quand à l'époque en avril 89, donc on fait l'interview probablement en mars, eux ils disent on fait du hardcore. Voilà, le terme est sorti, on fait du hardcore. Donc il y a aussi cette idée de on ne fait pas du punk, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Jérôme tout à l'heure, hein, dans cette deuxième moitié des années 80, dire on fait du punk, c'est en gros on est des vieux cons qui font de la musique des années fin des années 70. Donc il faut trouver une autre étiquette, même si aujourd'hui, quand on réécoute, on se dit objectivement, ils faisaient effectivement du punk, ils avaient une attitude punk comme les Ch'tos, mais à l'époque, c'était pas forcément revendiqué ou assumé. Donc voilà, après les connexions, les chroniques que moi je faisais sur le rock, la Oi, News from England, le Link Records, etc. Et ensuite, le punk, on va aussi le trouver dans des fanzines qui sont pas forcément sur lesquelles on va dire c'est pas des fanzines punk, c'est plutôt des fanzines comme des Cold Wave ou New Wave, je pense à Jugement Dernier, mais qui vont être politisés. Voilà, ils vont parler de l'anarchisme. Donc même si musicalement, ils vont vous parler d'autres groupes qui sont pas punk, en tout cas, ils vont parler de valeurs, et puis c'est toujours aussi hein, du point de vue esthétique, hein, c'est fait à la main, donc ça rappelle cette esthétique du fanzine photocopié punk. Parfois c'est parce qu'il n'y a pas d'autre choix, en tout cas, hein, que la photocopie. On commence à voir aussi apparaître les premiers fanzines spécialisés sur des genres musicaux. Donc Symphonie Urbaine, 89-91, hein, qui est de la Chapelle-sur-Erre, donc qui est un skinzine, comme on va dire ça aujourd'hui, je suis pas sûr qu'à l'époque c'est comme ça qu'on l'appelait. Particularité des skinzines, c'est il y a toujours cet aspect vêture, hein, c'est le côté Marie-Claire des fanzines de Hoy, il y a besoin de le dress code bien respecté. Donc dans chaque numéro, il y a quelque chose sur la bonne dégaine, attention, et Gildas va peut confirmer. Il a tous les numéros. Fraîcheur Sport, hein, donc peut-être l'un des premiers effectivement qui parle de hardcore. Donc là, on est vraiment au début des années 90. Total Chaos, qui est le fanzine de Stéphane Moreau. Donc il sort deux numéros, 92-93. Et puis Dialectique viendra que quelques années plus tard. Donc c'est assez étonnant parce que quand on lit l'édito 92, déjà il explique qu'il a ses envies de, hein, souvent les fanzineurs vont sortir des compilations cassettes, monter des labels, faire des émissions de radio. On voit bien qu'il a cette envie, mais bon, ça viendra deux années plus tard. À partir du milieu des années 90, là on va trouver aussi une certaine esthétique ou un positionnement, une attitude un peu punk, ou si on le rattache aux racines avant-gardistes du punk, Dada, Situ, etc., dans des fanzines comme Trace, qui sont plus autour collectif d'expression, hein, 92-96, autour de la poésie, etc. Mais on va avoir, bah, vous voyez, hein, des collages comme ça sur des annuaires qui vont être faits et qui rappellent, hein, ces productions des dadaïstes, etc., et qu'on va retrouver dans les fanzines punk anglaises fin des années 70. La même période, on a des newsletters, donc ça a été évoqué tout à l'heure par Mehdi notamment. Donc tu disais qu'il avait fait une newsletter, il a pas donné le nom et moi je la connaissais pas, donc je suis sûr qu'elle est pas recensée. Donc voilà quelques newsletters, hein, Le Joyeux, Le Sauvage, l'Index, auquel a pu participer Jérôme Guibert notamment, et d'autres. Fanzine Hardcore, donc No Sense, 96-98, donc ça c'est un fanzine de Julien Otavi, donc le numéro 1 n'est pas sorti à Nantes, mais après les numéros suivants, hein, de 2 à 4, donc de Apo 33. Voilà, ça ce sont des fanzines, j'en ai reproduit un que j'ai mis là, vous pouvez le. Il y a 80 pages, hein, c'est du gros fanzine, vraiment bien touffu, avec beaucoup d'informations, et vous pourrez consulter. Alors il y a aussi et Rachid me disait tiens, c'est gonflé de mettre Pulse. Comment ça se fait qu'il y a Pulse dans ce mur-là? Alors Pulse qui avait été lancé par Ordax, hein, passé ça, Deris, avec qui on faisait The Gossip quand on était au lycée ensemble. Alors moi j'ai mis Pulse parce que j'ai pas mis Pulsomatique, mais j'ai mis Pulse parce que au départ ça reste une entreprise, on va dire associative, sans moyens, avec une expérience quand même. Hein, ça fait quand même déjà presque 7 ans qu'il fait du fanzine. Et puis parce que bah, dedans on trouve des articles sur le hardcore. Donc finalement, il y a de la formation punk qui sort dans un fanzine ou un prosine, comme on peut l'appeler, parce qu'effectivement les maquettes sont très élaborées, mais ça vous parle quand même un petit peu, hein, des scènes punk, les Jésus et Moïse dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'ils font partie de la scène punk ? Ou bon, après, ça deviendra plus somatique. Là, on n'est plus dans du fanzine, on est dans une entreprise un peu plus professionnalisé avec des salariés, donc c'est autre chose. Mais en tout cas, Pulsomatique, c'est un encart de Pulse au départ. Fin des années 90, bah, on a Fœtus Triel, hein, qui est pareil, un fanzine gratuit, là aussi, imprimé en offset, assez luxueux, mais format A5, format assez classique, hein, qui va bien rayonner sur Nantes. Je développe pas, mais à partir du numéro 12-13, il commence à manifester des problèmes de relations avec les labels qui sont les labels qui vont payer des encarts publicitaires qui font vivre le fanzine. Donc c'est-à-dire quand vous avez un label qui vous paye une page et que vous chroniquez un album et que vous dites bah c'est vraiment pourri, le label il rappelle, il fait écoute, si tu dis que c'est pourri, on ne prend plus de pub. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire bah quitte à être dépendant de quelqu'un, on préfère être dépendant de nos lecteurs. Donc on passe à une formule payante, hein, qui sera donc Fetus Rieck passera à Fetus, et qui, bah, le problème du payant, c'est qu'il y a du dépôt vente et qu'il faut des retours, évidemment, et ça c'est plus compliqué, donc il n'y aura qu'un numéro, mais ils ont de la suite dans les idées. Fetus devient Child, vous voyez, le Fetus a grandi, il est devenu Child, un nouveau fanzine, on est en 2001, qui aussi quelque chose d'un peu plus large au point de vue du contenu. Là encore, une expérience d'un fanzine payant assez courte. 98-2001, au même moment, finalement, existe encore aussi hein, des fanzines comme Dommage hein, de Jean-François Genet sur Saint-Herblain. Il y a eu au moins 4 numéros entre 98-99, une pause de deux ans, et puis 2001, dernier numéro, où là, on va être quelque chose qui revient hein, sur chose d'assez rudimentaire, photocopié. Newcastle, hein, là encore donc on est en 98, un peu plus tard que Symphonie Urbaine, donc on a de nouveau un skinzine hein, qui vous dit le nouveau château reste destiné aux rude girls and boys progressistes, toujours un positionnement très très clair hein, qui va être marqué dans ces fanzines. Ce tournant des années 2000, l'apparition de Lobotos qui va être un fanzine garage. Pareil, stand-up dont on a un petit peu parlé rapidement ce matin entre Nantes et Saint-Herblain, donc là vous voyez c'est bien mis en avant, hein, hardcore fanzine, et là on commence à avoir effectivement une esthétique très 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 différente, et sur les fanzines hardcore par la suite hein, c'est vraiment quelque chose qu'on reconnaît bien, qui se démarque des premiers fanzines faits à la main des punks, des newsletters aussi hein, d'ALB qui est plus grindcore, shit noise, power violence. Donc là, on est sur quelque chose de encore un courant encore plus restreint avec des codes bien particuliers. Et puis dans les années 2000, on voit apparaître des fanzines qui ne sont pas des fanzines punk, qui sont des fanzines un peu polyvalents, mais dans lequel le punk va revenir. Alors comme les hommes du président, hein, y a eu à peu près neuf numéros. Des fanzines sur lesquelles il y a une recherche artistique assez marquée, mais dans lequel on va avoir des pages comme ça, quand le punk est dans la musique. Donc voilà, il y a une évocation du punk à travers des slogans, des pages qui lui sont dédiées, ou d'une certaine manière, ceci, qui va nous rappeler ce qui a été montré ce matin hein, dans le fanzine Sideburns, hein, en 77, on dit on propose au punk anglais de créer un groupe, alors en disant bah voilà, voici un accord, en voici un autre, en voici un troisième, maintenant créer un groupe. Bah on a toujours cette même idée hein, finalement qui est reprise, qui revient. Et puis le punk, on va le retrouver ensuite dans des fanzines comme Quinquin, qui sont des fanzines plutôt de BD. Sur Nantes et donc vous voyez directement hein, le punk, le tribute to Beru hein, tout là-haut ou la vie dans les festivals avec le punk qui revient, d'autres avec des gens qui sont pas du tout, a priori pas du tout punk, je pense à Anne Bachelet qui faisait un fanzine à la taille de Mes Ambitions, tout petit fanzine à 6, dans lequel voilà on a des dessins, bah là, toujours la fameuse tablature qui voilà cette évocation cette finalement de Sideburns ou le punk selon Pinky, donc ça revient finalement, on voit bien que le punk il est présent mais pas forcément à travers la musique, à travers parfois des clichés ou des clins d'œil. C'est le cas également avec Fume ta moustache qui est un fanzine plutôt de BD également. Qui existe depuis 2003, le dernier c'était 2016, donc voilà, ça, je ne sais pas si ça continue, mais il me semble que ça continue encore. Ils ont pas arrêté, dans lequel, bon, on va voir. Voilà, le punk est évoqué à travers une vie de chien à punk hein, qui passe ses journées à se faire taper dessus, notamment. Donc voilà, c'est une certaine lecture. Accalmie, fanzine de Pontchâteau. Là, on est sur 2006. Là encore, on est sur un fanzine, vous voyez, Charge 69, qui va parler de punk. Et puis là, j'ai presque une décennie dans laquelle j'ai rien, mais c'est peut-être parce que j'étais un peu loin de Nantes. On revient à 2015 avec Dernier Tram. Donc là, qui est plus newsletter. Hein, et bon, bah là, c'est clair, hein, on revient à une esthétique assez proche des origines. Ou à travers Bastard Comics. Là encore, c'est le punk évoqué dans la BD. Et puis enfin, la dernière dernière chose que j'associerais au mouvement punk, c'est le Gravzine, un Gravzine sérigraphié Vagina Serbia, qui est sur la tournée de Vagina Town en ex-Yougoslavie hein, pendant l'été 2015, et qui racontait à travers des dessins et donc le groupe lui-même hein, et à travers ses attitudes, en tout cas la façon dont se comporte sur scène, on peut le rattacher au punk. Voilà ce petit tour. Je remercie vivement Elvire, hein, sans qui le mur là au fond n'aurait pas existé. Donc
merci.
Voilà, merci Elvire. Et puis, je le disais, c'est un panorama incomplet. Il y en a que je connais en termes de nom, mais j'ai jamais pu trouver la moindre image. Alors, si vous les connaissez, l'Obsina, je parlais d'Anaïs Lucas, Politburoy, l'Opportuniste, Discord, Delirium Tremens, fin des années 80. Et puis d'autres, certainement. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Samuel, tu as montré une planche avec les accords.
Oui.
Ils disent une chanson de 1969 écrite par un homme et chantée par une femme. Moi, je ne suis pas guitariste. C'est quelle chanson?
Celle-là?
Oui.
Je n'en sais rien du tout.
Oh.
Je ne suis pas guitariste non plus.
OK, pardon. Il n'y a pas la réponse.
Il n'y a pas la réponse, ben non. Alors, les guitaristes.
En tout cas, c'est signé Tasio et Boy, là, le groupe de Saint-Nazaire, qui ont fait la page. Là. Ah. C'est le groupe de Rock Indé, là. Mais c'est pas ça. Je voulais te demander, est-ce que tu as réfléchi sur l'endroit où on trouvait les zines? Parce que, du coup, historiquement, on dit tout le temps, voilà, le mail, les correspondances mail, le mail là, les listes de distro et tout ça. Mais au sein d'une scène locale, pour les gens qui n'étaient pas forcément dans la technique de l'échange DIY, parce qu'ils n'étaient pas eux-mêmes producteurs de zines, donc tu as cité Blue Record, bon, on sait que Nuggets, il y avait aussi des zines à l'époque.
Nuggets, Fuzz.
Mais ouais, est-ce qu'il y avait. Parce que maintenant, en fait, il y a beaucoup de zines chez les disquaires, mais sinon, parfois dans les bars. Est-ce que tu penses, t'as vu une évolution là dans l'endroit où on pouvait les récupérer?
Ouais, c'est effectivement, il y en avait chez moi, par Bordel 666 par exemple, j'ai trouvé chez First Disc, la boutique au Caz, c'était Laurent Linger qui était, moi j'en souviens très bien là, en 88. J'avais fait déjà un fanzine en 85, mais je savais même pas que ça s'appelait un fanzine. Je lisais Salut les copains, enfin, ce truc comme ça. Et je prenais des interviews de, mettons, Jean-Jacques Goldman, je mettais les réponses de Karine Chéri, les choses comme ça. Et j'avais fait des photocopies, filé ça à des copains de classe. Bon, je trouvais ça rigolo, et puis, mais je savais pas que c'était un fanzine. En 88, chez First Disc, je vois ce Bordel 666 là qui est accroché, et puis je demande à Laurent Linger, je dis c'est quoi ça? Il me dit c'est un fanzine. Bon, j'étais pas plus avancé, je dis ok. Je dis c'était 4 francs, je dis ok, je vais le prendre. Donc je l'ai pris, et puis on s'est retrouvé avec des copains dans un bar place du commerce, et on a commencé à regarder ça, mais on était morts de rire. On disait mais qu'est-ce que c'est nul, parce que c'est écrit à la main, il y avait des fautes partout, mais on a vraiment passé une après-midi entière à bien rigoler, et le lundi on démarrait notre fanzine. On s'est dit on va faire pareil, et donc en fait voilà, il y en avait un petit peu chez les disquaires, mais en même temps à la même époque il y avait d'autres fanzines qui existaient et on les connaissait pas, alors à part PQ, parce qu'au Majestic voilà on avait rencontré James Fortune et avec lequel on avait pu échanger, mais je vois Seine Plongeon, c'est que beaucoup plus tard que j'en ai vu, alors que moi je sais pas où est-ce qu'ils distribuaient. Nous par exemple on était en dépôt vente chez Fuzz, ce qui nous avait posé une fois un problème parce qu'on avait fait un comparatif du prix des disques chez les disquaires nantais, puis on montrait que chez Fuzz Disc c'était 30% plus cher, et le seul point de dépôt vente qu'on avait chez les disquaires c'était Fuzz Disc, donc on se tirait une balle dans le pied. Donc quand j'étais reparti chercher le fruit des dépôts ventes, j'avais le droit à un petit courrier de Noël Théron qui nous expliquait le pourquoi du comment les disques étaient plus chers et qui nous remerciait de notre rigueur journalistique, et que voilà. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait très peu de points de vente, et on avait aussi le Melody Maker, et puis First Disc, je crois que c'était à peu près tout, peut-être Nuggets. Alors nous, on n'était pas déposé là-bas, mais tu vois, je pense qu'il y avait, chacun avait son propre réseau finalement. Melody Maker, c'était parce que c'était un café où on était tout le temps et qui nous faisait de la pub. Mais si tu avais cette idée de peut-être de clan ou de communauté entre ceux qui allaient au Scribe, ceux qui allaient au Flessel, ceux qui allaient dans d'autres dans d'autres bars, et il n'y avait pas forcément de porosité entre toutes ces scènes.
Est-ce que tu dates le moment où on a pu commencer plus à acheter les zines dans les concerts, que les gens mettent des tables où ils vendent leur merch et...
Alors, moi, je me souviens qu'en fin 90, on avait au Majestic, effectivement, on en vendait au Majestic. Pas au début, mais à la fin, on venait et on pouvait vendre The Gossip, le numéro 4, là, on pouvait le vendre au Majestic. Donc, avant, je n'avais pas vu. Mais au moins fin 90. Après, dans les CAFCON, ça se faisait plus facilement.
On va conclure là. Merci beaucoup, Samuel.